Merci. Quand j'ai préparé ce message, j'avais un dilemme entre est-ce que j'affiche le texte biblique ici, et puis après, où est-ce que je mets les titres et puis le reste, ou bien est-ce que j'affiche les titres et le reste, mais après, où est-ce qu'on met le texte biblique? Alors je me suis dit, j'imprime le texte biblique, comme ça je peux le citer, puis vous pouvez vous y référer, et puis en même temps, je peux afficher d'autres trucs ici. On a des fois, la Bible forme un tout. Hein. Des fois, on se dit l'Ancien Testament, c'est une vieille histoire. Le Nouveau Testament, il n'y a que ça de vrai. Mais pourtant, on trouve dans l'Ancien Testament des vérités qui se trouvent mises en lumière dans le Nouveau Testament sous un angle un peu nouveau. Et le psaume 103 est peut-être un exemple de ça. Le psalmiste parle à son âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Je parle à mon âme. Mon âme, s'il te plaît, tu veux bien bénir l'Éternel? Il fait de l'introspection. Il fait une introspection avec Dieu, une introspection priante dans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses dans ce texte et on ne va pas tout regarder, sinon on sera encore là demain. Mais le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est ça. Le péché, c'est grave. Mais réjouis-toi et réjouis-toi, Dieu te pardonne. Alors j'aurais pu me baser sur l'épître aux Romains, qui est très pertinente pour ce sujet, et on va pas mal s'y référer aujourd'hui. Mais pour ce message, je voulais un psaume qui est un cri de joie, parce qu'il y a de la joie dans le fait d'être pardonné par Dieu. Un cri de joie à propos du péché et du pardon, et le psaume 103 nous offre ça. Or pour commencer, ah voilà. Comprends ce que c'est que le péché. Au verset 6 à 12, dans le psaume, on trouve différentes petites expressions comme celle-là. Comme le méritaient nos fautes. Dieu n'a pas puni comme le méritaient nos fautes. Ah bon? Nos fautes, elles méritaient d'être punies? Alors oui, le péché, c'est pas à la mode, hein. On n'aime pas ça parce que c'est culpabilisant. Et on vit dans une société qui rejette tout ce qui est culpabilisant. Mais je crois que si on réduit le péché à un truc culpabilisant, on risque de passer un peu à côté de ce qui est intéressant, de passer à côté de quelque chose qui peut nous donner beaucoup de joie et beaucoup de paix. Alors pour commencer, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que c'est le péché? Comment vous définiriez le péché? Qu'est-ce que ça veut dire, péché? Qu'est-ce que c'est les péchés? Je vous passe le micro. Péché. Manquer le but, ouais. Manquer la cible. C'est comme ça qu'on peut traduire le verbe grec qui dit péché. Manquer la cible, voilà. Dieu avait un plan et on est passé à côté. On a manqué la cible. D'autres propositions? Ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu, qui ne sont pas inspirés par l'amour. Oui, ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu, ce qui nous éloigne de Dieu, on va revenir là-dessus aussi. Est-ce que le péché a à voir avec les 10 commandements? Peut-être bien. Péché, il y a cette idée de transgresser, de comment on dit, il y a une règle et on viole la règle. Il y a aussi, dans l'Ancien Testament, il y a une demi-douzaine de mots qu'on peut traduire par péché. Et puis, il y en a certains qui ont cette idée de transgression. Voilà, j'ai violé une règle, j'ai fait une faute. Oui, on peut aussi définir le péché comme faire une faute. La négligence, oui. Négligence. Parmi les mots qui traduisent le péché dans l'Ancien Testament, il y en a certains qui sont une erreur ou un péché involontaire. C'est intéressant, on va venir là-dessus. Et le verbe grec, dans le Nouveau Testament, c'est plus simple. Il n'y a qu'un seul verbe qui veut dire péché. Mais on peut le traduire par manquer la cible, on peut le traduire par commettre une faute, on peut aussi le traduire par se tromper. Je pense que ça va un peu dans ce sens. voilà, ben, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé. Et ça a des conséquences. Renier Dieu, ouais, rejeter Dieu, donc se séparer de Dieu. Ouais. C'est cool, je vais arrêter de prêcher, je vais vous inviter sur scène. Le péché. Alors un peu tout ça, c'est tout des façons correctes de définir ce que c'est le péché. J'ai essayé de réfléchir un petit peu, puis je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire une typologie du péché? Qu'est-ce qu'il existe comme sorte de péché? Je me suis dit, c'est peut-être pas mal, parce que ça nous permet de prendre conscience peut-être de tout ce qu'il y a. Alors il y a le péché volontaire conscient. Je choisis de faire le mal, et je sais que c'est mal, mais je le fais. C'est le péché volontaire conscient, en principe, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le péché par omission. Je choisis de ne pas faire quelque chose. Ou bien, j'oublie de faire quelque chose, et ça a des conséquences. Ça, c'est souvent moi, j'oublie de faire quelque chose. Il y a le péché involontaire. Les paroles ont été plus vite que la pensée. Ou bien, j'ai eu des mauvaises pensées. Alors, il y a aussi quelque chose de l'ordre du péché là-dedans, parce que les pensées, c'est des petites graines qu'on peut laisser pousser ou pas. Il y a le péché qui passe inaperçu. Hein? Je perçois que l'effet. Je me rends compte, tout à coup, moi ça m'arrive, je me rends compte que je me suis éloigné de Dieu et dans le fond, je ne sais pas trop pourquoi. Mais le fait est là, je me suis éloigné de Dieu. Donc j'ai besoin de revenir à Dieu. Et puis il y a peut-être quelque chose qui est le péché maladie. Alors, c'est pas que j'ai une grippe, donc j'ai péché. C'est pas non plus que la maladie est un péché. Par péché maladie, je veux dire les choses, peut-être vous connaissez ça. Je sais que c'est mal, mais je peux pas m'empêcher de le faire quand même. Et je le refais encore et encore, tout en sachant que c'est mal, mais j'arrive pas à m'en empêcher, comme une maladie. Et tout ça, c'est différentes formes de péché. Là, je suis en train de plomber l'ambiance, peut-être. On peut aussi regarder les conséquences du péché. Première conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu, hein, on l'a dit. Adam et Ève ont commis le péché originel et ils ont eu peur. Ils se sont séparés, ils sont allés se cacher, mais Dieu continue à les chercher. Séparation d'avec Dieu, une rupture de la relation. Une rupture de la relation avec Dieu, c'est une rupture de l'alliance. C'est être séparé de Dieu. Pas de paradis si on est séparé de Dieu. Et si pas de paradis, si on est séparé de Dieu, alors la mort éternelle. Le péché conduit à la mort. Le psaume 103 parle de la mort, au verset 4. Il dit, c'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Alors peut-être que c'est avec une perspective éternelle. Ben voilà, grâce à Dieu, tu as la vie éternelle. Il délivre ta vie de la tombe quand il te pardonne. Dans l'épître aux Romains, on a ces paroles, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Oups. Mais, il est important, ce mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Une autre conséquence du péché, c'est la tristesse, c'est la colère de Dieu. Pourquoi il est triste et en colère? Ben parce qu'on s'est séparé de lui. Le psaume 103, au verset 10, nous dit « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Dieu devrait nous punir. » On s'entend, hein, une punition à but pédagogique. Dieu, toujours, presque toujours dans l'Ancien Testament, quand Dieu prévoit de punir ou Dieu punit, il s'engage à arrêter la punition sitôt qu'il y a repentance. Le péché attriste Dieu et il aimerait bien qu'on n'en ait pas. Dans Romains chapitre 2, voilà, il fait deux catégories de personnes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il, Dieu, donnera la vie éternelle. Mais il, Dieu, réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, donc Dieu, ça le met en colère quand on pêche. Et puis une troisième conséquence du péché, non des moindres, c'est que Dieu veut nous sauver. Il élabore un plan pour ça. Psaume 103, le verset 12, nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu éloigne de nous ce qui nous éloigne de lui. Par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est comme ça qu'il va le faire. Dans l'Épître aux Romains, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, donc le péché, c'est grave. Et il est important qu'on reconnaisse que le péché, c'est grave. Et il est important que je sois attentif à la poutre qui est dans mon œil. C'est pas moi qui invente cette image, hein, c'est Jésus qui l'a inventée. Vous aurez reconnu. C'est important de reconnaître le péché en identifiant nos actes mauvais. Et parfois, c'est l'acte qui est bon, mais la motivation derrière qui est mauvaise. Sachons reconnaître nos péchés. Et un autre moyen complémentaire, peut-être, de reconnaître son péché, c'est qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu ? J'ai dit avant, dans ma vie, il m'arrive de m'enfoncer dans mon train-train, et puis ça va bien, puis tout à coup, je me rends compte, mais en fait, je me suis éloigné de Dieu. Donc, il y a un péché là-dedans, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais l'urgence de revenir vers Dieu. J'aime bien mettre des questions à méditer. Hop. Où se cache le péché dans ma vie ? Peut-être qu'il y a un endroit où il y a un peu de péché qui reste. Et qu'est-ce qui me détourne de Dieu ? Alors, c'est des questions, je pense que c'est bien de se les poser de temps en temps. Où se cache du péché dans ma vie ? Qu'est-ce qui me détourne de Dieu ? On reviendra sur ces questions après. J'ai pris deux trucs pour les slides. Mais, ah oui, il y en a un qui marche. Gère ton péché. Aha. Alors le psaume 103 au verset 3 et au verset 5, des versets 3 à 5 nous parlent de nos fautes, de nos maladies. Ok, on va voir ça. Alors dimanche prochain, on va parler de la joie de la repentance. On aura l'occasion de parler de la repentance. Mais avant de parler de la repentance, on peut dire quelques mots sur la manière dont on gère le péché dans nos vies. Parce que je crois que c'est important aussi, le pardon de Dieu, ce n'est pas une petite pilule miracle qu'on prend pour nous déresponsabiliser complètement. On reste responsable de nos actes. Ce qui m'amène à ce titre un petit peu bizarre pour un chrétien, hein. Gère ton péché, gère ton péché. On peut gérer le péché, c'est un peu dérangeant comme titre, hein. Alors, je veux dire trois choses avec ça. Évite, oui, il faut éviter le péché, évite le péché. Non, ne surculpabilisez pas. Et non, ne déprimez pas sur votre impuissance. Je vais détailler un petit peu, hein. Évite le péché. Tenez-vous éloigné du mal. Si vous savez qu'une action n'est pas bonne, qu'elle n'est pas à 100% dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour, alors faites-la pas. Choisissez la lumière, la vérité, l'amour, comme Jésus aurait fait. Parfois c'est difficile, parce que ça nous coûte cher de faire le choix de la vérité. On a des choses à perdre, mais moi j'y crois vraiment qu'à long terme, dans la perspective de l'éternité, on est toujours gagnant à choisir la lumière, à choisir le bien, à choisir l'amour. Et puis, ceci étant dit, il y a parfois aussi où il peut arriver qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de bon choix possible. On est acculé dans une situation où, quelle que soit l'option choisie, et ça va faire du mal. Il n'est pas possible de ne pas faire du mal. Ça arrive souvent dans le social, hein. On a une chambre d'accueil d'urgence avec un lit d'accueil d'urgence à Sierre. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux personnes qui viennent ? Ben, il y en a une des deux qui va devoir dormir dehors. Et quand il n'y a pas de bonne option, je peux inviter Dieu dans mon discernement pour choisir la moins pire des options. Puis je peux déposer ma responsabilité à la croix de Dieu pour que lui porte aussi le fardeau de ça. J'ai fait au mieux dans la situation où j'étais. Et puis je peux apprendre pour essayer, si c'est possible, d'éviter de me retrouver acculé de nouveau dans une situation comme ça à l'avenir. Alors, s'il faut un exemple biblique de ça, moi j'ai pensé à David qui va manger des pains consacrés au Seigneur. Il n'a pas le droit de le faire, mais enfin, il a faim alors. Alors, il choisit la moins mauvaise solution. Dans l'Épître aux Romains, je reviens toujours aux Romains, je vous ai dit, c'est un très bon épître. Paul parle à des chrétiens, n'est-ce pas ? Et à des chrétiens, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Attends, mais il parle à des Romains, à des chrétiens, Paul. Donc des chrétiens qui sont censés être pardonnés par Jésus. Mais il leur dit ça, que le péché ne règne plus dans votre corps. Verset 13, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. » Voilà, et je crois que ça illustre un peu ça. Il faut gérer les péchés quand même. Je disais quoi avant ? Je disais, ah voilà, ne surculpabilise pas. Distinguer la bonne et la mauvaise culpabilité. Je crois qu'il y a une bonne et une mauvaise culpabilité. Il y a une bonne culpabilité qui me pousse à chercher le pardon et qui me conduit vers la vie. Cette bonne culpabilité, elle est liée à un acte précis. Et elle s'en va, en principe, après l'acte de pardon et l'acte de réparation, dont on parlera ces prochains dimanches. Et puis, il y a une mauvaise culpabilité qui me maintient dans une spirale de mort. Et je culpabilise beaucoup et pour tout. Et cette mauvaise culpabilité, elle n'est pas liée à une cause précise. Je crois qu'elle prend racine dans une mauvaise acceptation de soi. Je ne m'accepte pas comme je suis, je ne m'accepte pas assez comme je suis, et donc je culpabilise sans cesse de ne pas faire mieux. Alors, d'une certaine manière, je pêche en n'acceptant pas que Dieu a fait de moi une créature merveilleuse comme je suis. Bon, s'il y a cette mauvaise culpabilité qui vient, qui est liée à rien, qui fait juste nous détruire, vous pouvez la prendre, la déchirer, la poser dans la poubelle de la croix du Christ. La croix du Christ, il est mort pour prendre tout ça. Donc cette mauvaise culpabilité, je peux la remettre à la croix du Christ. C'est comme si je la mettais à la poubelle. Christ, il la prend. Et je peux demander au Saint-Esprit de venir rétablir la vérité en moi. Une bonne culpabilité à prendre au sérieux, qui nous conduit à la repentance et à Dieu. Et puis, peut-être des fois, une mauvaise culpabilité qui nous conduit à rien, qui nous conduit juste à nous faire du mal. Je me rends compte que je devrais faire tout un message là-dessus. C'est peut-être un peu court de parler juste un peu comme ça. On pourra toujours en reparler après. Surtout si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord. On peut discuter. Ne déprime pas sur ton impuissance. Ensuite, il y a notre impuissance. Être conscient, on peut être conscient du péché originel. Depuis les premiers humains, Adam et Ève, il y a un mal qui coule dans nos veines et qui nous pousse à commettre le mal, à manquer la cible, à nous séparer de Dieu. C'est le péché originel. Il est comme une maladie génétique, on ne l'a pas choisi, on vit avec, et il y a un seul remède, c'est la croix de Jésus. Venons à la croix de Jésus. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors la repentance est essentielle, on en parlera dimanche prochain. Vous verrez, c'est un truc génial. Mais c'est vrai que parler du pardon de Dieu sans parler de repentance, il manque un peu quelque chose. Donc je vais spoiler un petit peu sur dimanche prochain. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés, déposez vos péchés à la croix de Jésus et laissez Dieu vous pardonner. Ça, c'est la repentance en version hyper courte. On en reparle. Mais en attendant, j'aimerais nous inviter à réfléchir sur la façon dont on gère les péchés. Comment est-ce qu'on l'évite ? Comment est-ce qu'on gère nos culpabilités ? Et comment est-ce qu'on vient à la croix de Jésus ? Est-ce que je suis en paix avec la façon dont je gère mon péché ? Parce que souvenez-vous, le péché, c'est grave. Mais réjouis-toi, Dieu te pardonne. On reviendra sur les questions après. Viens à la croix. Le psaume 103 parle quelquefois, surtout entre les versets 13 et 18, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de de ceux qui le craignent. Il y a plusieurs fois dans le psaume 103, c'est comme une limitation. Dieu, il est bon, il est super, il pardonne, ok, mais peut-être pas tout le monde. Ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent revient trois fois. Une fois, on a pour ceux qui gardent son alliance. Et une fois, dans ce psaume, on a pour ceux qui gardent ses commandements et les mettent en pratique. Aha. Bon, ceux qui le craignent. Alors, dans l'Ancien Testament, craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu puis partir en courant. Craindre Dieu, c'est respecter et adorer Dieu. Avoir conscience qu'il est Dieu et qu'il est tout-puissant. Et forcément, se trouver face à quelqu'un de tout-puissant, ça fout un peu la pétoche, c'est normal. Mais Dieu, il nous aime. Craindre Dieu, plus du côté de respecter Dieu. Dans le Nouveau Testament, craindre Dieu, c'est devenu croire en Jésus-Christ. Rester dans son alliance et lui obéir. Finalement, ce n'est pas très différent dans l'Ancien Testament. Souvenons-nous de Jésus qui nous a dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Dieu, il nous connaît. Il nous connaît comme s'il nous avait fait. Et pour cause. En fait, il nous a fait, Dieu. Il sait très bien que nous sommes faibles et incapables. Et c'est ce que disent les versets 14 à 16 dans le psaume 103. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et l'homme, il est comme de l'herbe. Il flétrit comme la fleur des champs. Dès qu'il souffle un peu un vent chaud, là, on se dessèche. Et le psaume 103, au verset 13, il fait aussi un truc intéressant. Il dit « comme un père a compassion de ses enfants ». Ok. Il compare Dieu à un père. Il est notre père. Quand on dit « Abba, père », « Abba », ça veut dire « papa », ça veut dire « papounet divin ». Papounet divin, voilà, la relation que je peux avoir avec Dieu, c'est mon papa qui m'aime et qui souhaite me transmettre ce qu'il a de mieux. « Comme un père a compassion ». Et ce mot « compassion », en hébreu, il est super intéressant. Ça se dit « rachum ». Rachum, littéralement, on pourrait le traduire par entrailleux. Entrailleux qui est plein d'entrailles. Les entrailles. Pas n'importe quelle entraille. Les entrailles, la matrice féminine. Les organes chez une femme qui servent à faire les enfants. Dieu, il est plein d'entrailles. Il est plein de cette matrice pour faire les enfants. Dieu, il a de l'instinct maternel. Il a une compassion maternelle. Quand le psaume nous dit « comme un père a compassion », d'une certaine manière, c'est un peu comme s'il disait quelque chose comme « Dieu, il est ton papa et ta maman, mais en vachement mieux ». Et donc Dieu pardonne nos péchés par pure grâce. Il sait qu'on est faible, il sait qu'on est incapable, qu'on est impuissant. Il sait que nous ne pouvons rien faire pour ça. Dieu nous pardonne et on l'a pas mérité, c'est juste qu'il est bon et qu'il nous aime. Dieu pardonne nos péchés, il le fait pas n'importe comment, il le fait par Jésus-Christ à la croix. Jésus qui prend nos péchés sur lui. Et donc, il pardonne pas les péchés pour tous les humains de la terre, il pardonne les péchés pour tous les humains de la terre qui acceptent d'être pardonnés par Jésus-Christ à la croix. Donc, pour ceux qui acceptent que Jésus est Dieu et qui acceptent de se soumettre à Jésus-Christ. Parce que c'est en acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur que je permets à Dieu de me pardonner, que je permets à Dieu de me sauver par la croix. Mon ami Paul a écrit dans l'Épître aux Romains, je vous ai déjà parlé de l'Épître aux Romains, Paul a écrit « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Car oui, sans Jésus, nous pouvons être esclaves du péché. Jésus nous sauve, et je veux remettre ici une question très importante à laquelle certainement beaucoup d'entre vous ont déjà répondu, mais je la remets quand même parce qu'elle est fondamentale et elle est fondatrice. Est-ce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur? Parce que le péché, c'est grave. Mais réjouis-toi, Dieu te pardonne. Ce qui m'amène au dernier point. Laisse-toi véritablement être pardonné par Dieu. Ce psaume 103, je ne sais pas si ça vous a frappé, les quatre premiers mots, c'est « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et les quatre derniers mots, c'est « Bénis l'Éternel, mon âme ». Est-ce que vous êtes déjà arrivé que quelqu'un vous dise ces mots-là ? « Cher, je te pardonne ». Surtout après un gros truc, « Je te pardonne ». Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit ça ? Et quel effet est-ce que ça vous a fait ? Ça fait du bien. Ça soulage. Ça fait du bien. J'aime bien comme tu l'as dit parce qu'on sent le soulagement. Ça enlève la culpabilité. Je retrouve la paix. Et j'ai de la joie. J'ai la joie de retrouver la paix. J'ai aussi la joie de savoir que l'autre est sympa. Et j'ai la joie de savoir que ma relation avec l'autre est renouvelée. Cette relation qui était morte à cause de la culpabilité, j'ose plus lui parler, voilà, elle revient à la vie. On peut de nouveau se parler. Avec Dieu, c'est tout pareil, mais en mieux. La culpabilité de mon péché, elle est enlevée. Alors, je rappelle, il y a la repentance entre les deux, puis la réparation. Mais voilà, le résultat, c'est ça. La culpabilité est enlevée. Je me souviens de la bonté infinie de Dieu et je renoue avec lui. J'entre plus profondément en relation avec Dieu. Et je peux m'écrier, béni soit l'Éternel Dieu, béni soit Jésus-Christ, béni l'Éternel. Et c'est ce que fait le psaume 103. C'est les deux premiers versets et les deux derniers versets, trois derniers versets, ils disent que ça, bénissez l'Éternel, bénis l'Éternel, béni soit Dieu. Tout ce psaume se déroule dans la joie de celui qui sait qu'il a été pardonné par Dieu. C'est pour ça que j'ai pris le psaume 103 aujourd'hui et pas l'épître aux Romains pour prêcher sur le péché. Parce que dans le pardon, il y a de la joie. Et ces mots-là, « Bénis l'Éternel, mon âme », il y a autre chose d'intéressant. À qui s'adresse le psalmiste ? Il s'adresse à son âme. Il s'adresse à son âme. Il s'adresse à lui-même, à son âme, mais aussi à tout ce qui est dedans lui. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Tout ce qui est en moi. Ouf, un tas de trucs, hein. Et il continue, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, il y a tout ce que Dieu a fait et il y a tout ce qui est en moi. Il y a la volonté d'être complètement et d'être cohérent. Et je veux être plus précis. Me savoir pardonner, je peux le savoir avec la tête, mais le refuser avec mes tripes. C'est comme quand on vous fait un compliment. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. On peut refuser un compliment, par exemple en le minimisant ou bien en le renvoyant à l'autre. « Ah non, mais tu sais, c'était facile. » Ou bien en lui disant « Non, mais toi, tu fais mieux de toute façon. » Voilà, je refuse le compliment, il n'est pas entré dans moi. Je peux aussi accepter un compliment. Par exemple, je dis « Merci pour le compliment, je l'accepte. » Et là, ce qui va se passer en moi, c'est très différent. Si j'accepte le compliment, il peut descendre dans moi. Et pour le pardon de Dieu, c'est tout pareil. Il va me transformer beaucoup plus si j'accepte le pardon de Dieu, j'accepte et je le laisse descendre en moi. Alors, je pourrais m'écrier de tout mon être, « Béni soit l'Éternel, béni l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Du reste, je pense accepter un compliment, c'est super bien pour l'acceptation de soi qui aide contre certains péchés aussi. Acceptez les compliments quand on vous en fait. Et acceptez le pardon de Dieu. On a chanté avant un chant qui disait « Tu me demandes simplement d'accepter ton pardon. Oh, » Alors facile, hein, « Tu me demandes simplement d'accepter ton pardon. » Mais il se peut aussi que parfois on ait une acceptation sélective du pardon de Dieu. Globalement, oui, je suis pardonné par Dieu, je suis né de nouveau, c'est super. Mais il y a un ou deux domaines, il y a un ou deux péchés où, dans le fond, si je suis honnête avec moi-même, je ne me sens pas digne d'être pardonné. Je ne reçois pas ce pardon pour certaines choses. Alors là, c'est le moment où j'aimerais vous demander d'être un peu honnête avec vous-même, en faisant de l'introspection. Est-ce que tout au fond de moi, j'accepte d'être pardonné par Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où quelque chose en moi refuse d'être pardonné par Dieu? C'est important. L'autre manière de le dire, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Y a-t-il en moi un refus du pardon de Dieu dans un domaine de ma vie? Parce que le péché, c'est grave, mais réjouis-toi! Réjouis-toi, Dieu te pardonne. Et je vais remettre toutes les questions à méditer. Le péché peut prendre plein de formes différentes. Est-ce qu'il y a quelque part dans ma vie un peu de péché qui se cache encore, que je n'ai pas vu ou que je refuse de voir? Est-ce qu'il y a des choses qui me détournent de Dieu? S'il y a des choses qui me détournent de Dieu, alors peut-être que pour moi, elles sont péchées. Pour un autre, ça sera OK parce que ça ne le détourne pas de Dieu. Mais qu'est-ce qui me détourne de Dieu? Et puis, qu'est-ce que je fais avec ce péché? S'il y a des péchés que je fais, que je refais sans cesse, est-ce que je suis en paix avec la façon dont je gère mon péché? Je peux demander à Dieu son aide pour ça. Rappelez-nous, on est impuissant, on est aussi des fruits du péché originel à quelque part, mais Dieu nous aide pour ça. Est-ce que j'ai accepté véritablement Jésus comme Seigneur, mon Seigneur et mon Sauveur, là aussi pour tous les aspects de ma vie? Est-ce que Dieu y règne sur tous les aspects de ma vie? Est-ce que j'accepte qu'il me sauve dans tous les aspects de ma vie, ou bien est-ce qu'il y a un refus du pardon de Dieu dans un domaine de ma vie? Là, je laisse ces questions ici pour qu'on puisse un peu méditer dessus. Et faites-le pas tout seul, faites-le avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous accompagner.